Bonjour mes frères et mes sœurs, êtes-vous reconnaissant à Dieu pour tout ce que vous avez, pour tout ce qu'il fait dans votre vie? Appréciez-vous la vie? Aimez-vous être vivant le matin lorsque vous vous levez? Êtes-vous heureux? Êtes-vous content? Êtes-vous joyeux? Ce sont là des questions que je vous ai posées lors de mon dernier sermon. Et je sais que je n'ai pas pu terminer les idées que j'avais. Donc, je voudrais continuer aujourd'hui avec la même idée, pour vous montrer que la chose la plus importante en ce monde, c'est d'apprécier Dieu, d'apprécier tout ce que vous avez, d'apprécier tout ce qu'il vous donne, et avant tout, d'apprécier la vie. Beaucoup de gens en ce monde, surtout à l'heure actuelle, ne sont pas heureux. Ils voient les difficultés, ils voient les meurtres, les guerres, les bruits de guerre, la saleté, la corruption. Alors ils sont découragés, ils sont négatifs. Mes frères et mes sœurs, nous autres dans l'Église de Dieu, nous ne devons pas être négatifs. Nous devons avoir une force, la force qui nous vient de Dieu, la force qui est basée sur la foi qui vient de Dieu. Réfléchissez, je vous prie. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Qu'est-ce qu'il y a que vous auriez pu souhaiter, quelque chose dont vous rêvez peut-être, que vous ne pourriez pas avoir? Le fait est que tout ce que vous pouvez jamais espérer dans votre vie, vous l'aurez si c'est la volonté de Dieu. Je répète, si c'est la volonté de Dieu, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous aimez avoir, vous l'aurez. C'est que, voyez-vous, la plupart du temps, nous avons des doutes dans notre esprit. Nous faisons une prière, nous avons des doutes, nous ne savons pas si ces prières seront exaucées. Nous demandons à Dieu quelque chose, ensuite nous disons, non, peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Parfois c'est vrai, parfois ce n'est pas la volonté, parfois ce sont nos désirs charnels qui nous poussent à demander des choses qui ne sont pas justes. Mais souvent, surtout lorsque vous avez des idées justes et votre attitude est bonne, et si vous aimez Dieu, si vous obéissez à ses commandements, souvent je dis, la chose que vous lui demandez est peut-être juste, mais le fait est que vous abandonnez, vous ne poursuivez pas. Je vous ai toujours dit, et je répète, pour autant que vous continuez à faire quelque chose, vous n'avez pas encore connu l'échec. L'échec vient du moment où vous abandonnez. Donc, dans une entreprise quelconque, dans tout ce que vous faites, dans votre travail, dans votre croissance, n'abandonnez jamais. Ce faisant, vous apprécierez Dieu. À travers la Bible, c'est cette leçon que nous pouvons suivre et apprendre, car tous ceux qui ont servi Dieu, les prophètes, les apôtres, le Christ lui-même, lorsqu'il était sur cette terre, tous ont tâché de faire ce qu'ils pouvaient faire avec la force que Dieu leur donnait. Alors, en tant qu'êtres humains, nous vivons aujourd'hui dans un monde pollué, corrompu, nous le savons. Mais est-ce là une raison pour nous autres d'abandonner? Est-ce là une raison pour nous autres de ne pas apprécier la vie? Écoutez, une chose est certaine. Vous seul, vous pouvez apprécier votre vie. Et c'est vrai. Autrement dit, ce n'est pas une question si quelqu'un d'autre est heureux ou non, si quelqu'un d'autre est riche ou non, si quelqu'un d'autre est en bonne santé ou non. Le tout se centre sur vous-même. Êtes-vous heureux? Quelles que soient les conditions de votre vie, êtes-vous heureux? Vous direz, écoutez, ça n'a pas de sens. Si je n'ai rien, si je suis pauvre, je suis malade, ces questions ne me touchent pas, ne me concernent pas. Mais si. C'est ça la différence entre une personne vraiment convertie qui croit en Dieu et une personne qui pense croire en Dieu. Une personne qui voudrait seulement croire en Dieu. Je vous ai dit lors de mon dernier sermon, qu'en toute chose, nous devons être reconnaissants à Dieu. Même en cas de maladie, car nous apprenons une leçon. Même en cas d'une tragédie, car nous apprenons une leçon. C'est ça, du reste, le message que la Bible nous enseigne. Je vous ai recommandé, et je vous recommande toujours, d'étudier, de lire, de réciter de tout votre cœur les psaumes. C'est bon de voir dans les psaumes comment David surtout loue Dieu. Il loue Dieu dans toutes les circonstances. Il dit, je sais que tu es avec moi, je sais que tu es fidèle, je sais que tu m'aimes. Ensuite, il dit, sonde-moi et corrige-moi. C'est cette attitude dont nous avons tous besoin. Avant tout, mes frères et mes sœurs, nous autres qui sommes dans l'Église de Dieu, nous avons tellement, nous nous laissons aller par le négativisme autour de nous. Nous voyons autour de nous la santé, la corruption. Nous voyons autour de nous des gens qui ne vivent pas d'après les commandements de Dieu. Je le sais. Mais là, ce n'est pas une raison pour nous autres pour abandonner. Faites le bien, quelles que soient les circonstances. Même si on vous persécute, même, je dirais, si on vous fait du mal, faites toujours le bien. En fin de compte, vous serez récompensés. Je vous ai dit, lors de mon dernier sermon, que l'apôtre Paul, qui a beaucoup souffert, était plein de reconnaissance. Vous direz, comment reconnaissance ? Eh bien, c'est simple. Vous ne pouvez pas rire lorsque vous êtes triste, non? Ou bien vous ne pouvez pas dire, oh, je suis content, lorsque vous vous plaignez, non? Autrement dit, cessez de vous plaindre. Cessez d'être triste. Soyez reconnaissant, riez, appréciez. Ce sont des choses, je vous dirais, peut-être, je parle à la légère, pas du tout. Car nous avons tous les mêmes tendances, nous sommes tous humains. Si vous connaissiez le but de la vie, et vous connaissez, si vous savez que Dieu vous réserve un avenir fantastique, alors vous apprécierez tout ce que vous avez maintenant. Même les épreuves que vous avez, que nous avons tous, ces épreuves vont nous conduire au succès final. C'est ce que je vous ai expliqué lors de mon dernier sermon, et c'est ce que je veux vous expliquer aujourd'hui avec plus de détails. Ce qui est intéressant, voyez-vous, la gratitude aujourd'hui est une qualité que beaucoup de gens n'ont pas, parce qu'ils regardent autour d'eux, ils voient les autres qui ont plus qu'eux, plus jeunes, plus beaux, ou bien plus riches, qu'importe. Alors, ils envient. Dès que vous commencez à envier les autres, vous ne pouvez pas apprécier ce que vous avez. C'est une autre leçon. Autrement dit, n'enviez pas les autres. Appréciez ce que vous avez, ensuite faites de votre mieux pour mettre à profit vos talents. Faites-les valoir, ces talents. Vous direz, je n'ai pas beaucoup de talents, mais si, vous avez toujours des talents qui peuvent vous être utiles à vous et aussi à ceux qui sont autour de vous. Comme la Bible dit, je vous l'ai montré, vous pouvez donner à quelqu'un un réconfort. Vous pouvez sourire. Vous pouvez être très positif. En présence d'un malade, vous pouvez avoir des paroles gentilles, des paroles pleines d'encouragement. C'est beau, ça. C'est quelque chose que vous pouvez donner, voyez-vous. Et ça ne vous coûte pas beaucoup de choses. Ça ne vous coûte rien. Et en même temps, ça vous fait du bien. Je répète, mes frères et mes sœurs, je répète, si vous êtes proche de Dieu, vous devez avoir cette attitude. Je vous ai cité, et je voudrais encore revenir à cela, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Lorsque Paul dit, priez sans cesse, soyez reconnaissant ce que vous avez, remerciez Dieu. Voyez-vous, lorsque vous pensez à ces choses, Paul ne parle pas à la légère. Paul a connu des souffrances, et pourtant c'est lui qui dit, priez sans cesse, soyez reconnaissant à Dieu. Chaque matin, lorsque vous vous levez, quelles sont vos premières pensées? Chaque soir, lorsque vous vous couchez, quelles sont vos dernières pensées? Est-ce que vous avez pris l'habitude de dire à Dieu, mettons le soir, la nuit, avant de vous endormir, écoute Dieu, merci pour la journée. Et aussi, protège-moi pendant la nuit. Eh oui, demandez à Dieu de vous protéger pendant la nuit, de vous protéger votre esprit, afin que vous puissiez dormir en paix. Voyez-vous, c'est souvent la faute est de notre côté. Et c'est toujours de notre côté, mais j'entends, en ce qui concerne les autres, nous regardons les autres et nous nous plaignons parce que nous ne pouvons pas jouir de ce qu'ils peuvent, eux, peut-être jouir. Je vous ai dit, et je le dis encore, du reste, la même chose encore hier, j'ai écrit une lettre à une personne qui m'avait écrit. Écoutez, j'ai dit, je sais que vous avez des problèmes, je sais que vous avez perdu quelqu'un, très cher à vous. J'ai dit, tout ce que vous pouvez vous dire à vous, je sais que Dieu l'aime, cette personne, comme Dieu m'aime moi. Je sais que dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours la beauté. Donc, faites confiance à Dieu. Ayez toujours en tête que ce que vous avez perdu, vous le rattraperez plus tard dans le royaume. Et c'est vrai. Une fois que vous avez cette perspective, vous apprécierez tout. Et je vous ai cité, je répète encore, Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 18. L'apôtre Paul dit que, je paraphrase maintenant, que ce que nous aurons plus tard n'est rien à comparer à ce qui nous manque aujourd'hui. Autrement dit, Paul dit, les souffrances de l'heure présente ne sont rien à comparer à l'avenir glorieux qui nous est réservé. Alors, mes frères et mes sœurs, continuons ce sujet avec un peu plus de détails. Quelle est la chose qui vous rapproche de Dieu ? Ce sont vos prières. Et pourtant, beaucoup de gens ne prient pas Dieu. Ou bien prient Dieu avec des phrases mémorisées. Une prière n'est pas des phrases mémorisées. Une prière doit venir de votre cœur, de vos sentiments sincères envers Dieu. Lorsque vous dites Dieu, déjà dans cette prière, dans cette appellation, il y a un rapprochement entre vous et votre Dieu. Lorsque vous vous approchez de Dieu à genoux, mettons même, n'importe quand, n'importe comment, soyez sûr que Dieu vous écoute, que Dieu vous entend. Vous savez, humainement parlant, je ne sais pas comment Dieu peut entendre des milliards de prières en même temps. Mais Dieu peut entendre des milliards de prières en même temps. Vous savez, nous savons, nous, comment un ordinateur fonctionne. Si un ordinateur peut avoir dans une seconde, mettons, quelques milliers, quelques milliards même de réponses à une question posée, comment Dieu, qui est infiniment supérieur à tout ce que nous avons, ou bien qu'il a créé, comment Dieu ne pourrait-il pas entendre toutes les prières en même temps? Donc, soyez sûr que lorsque vous priez, Dieu vous écoute, Dieu vous entend. N'ayez pas de doute. Je répète, mes frères et mes sœurs, la plupart du temps, ce sont nos doutes qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. Vous faites une prière, vous savez que la prière est juste, vous avez foi en Dieu, et l'instant après, vous doutez. Et je sais, nous sommes tous dans la même situation. Car, vous regardez autour de vous, car vous avez aussi Satan, le diable, qui encore est le roi de ce siècle. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est quelque chose qui vous approche de Dieu. La prière est une occasion pour vous et pour moi de savoir que Dieu nous écoute lorsque nous nous adressons à lui. Dans Matthieu chapitre 7, le Christ, c'est ce que nous appelons le serment sur la montagne, nous a dit comment prier. Oui, comment prier, parce que ce n'est pas exactement la prière ici, mais vous savez, autrement dit, toutes les recommandations divines dans la Bible, c'est une partie des conseils que Dieu nous donne, des ordres que Dieu nous donne, des commandements que Dieu nous donne. Matthieu 5, 6, 7 forme ce que nous appelons l'ensemble du serment sur la montagne. Alors, regardez voir ce qui est écrit dans Matthieu 7, verset 7. Écoutez, lorsque vous lisez ces phrases, soyez certains que Dieu entend ce qu'il dit, que Dieu ne ment pas, que la parole de Dieu constitue la vérité. Alors, le Christ a dit, Matthieu 7, 7, « Demandez et l'on vous donnera. » Voilà. Alors, doutez-vous ou bien acceptez-vous cette parole ? cette promesse. Cherchez et vous trouverez. Vous savez, chaque jour je reçois des lettres de la part des gens qui cherchent Dieu. Ils disent, monsieur Apartheid, comment est-ce qu'on peut trouver Dieu? Où est Dieu? Ou bien, où est l'Église de Dieu? La réponse est toujours simple. Dieu est toujours sur son trône. Il écoute toujours vos prières. L'Église de Dieu est là où Dieu opère. L'Église de Dieu est le corps du Christ. Donc, cherchez une Église où les commandements de Dieu sont respectés à tout point de vue. Cherchez une Église où on ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu. Cherchez une Église qui accomplit la mission que Dieu a donnée à son Église. Voilà. De même, lorsque vous cherchez Dieu, tâchez de chercher Dieu, non pas comment vous voudriez qu'il vous réponde, mais comment il vous dit qu'il vous répondra selon les promesses qu'il a faites dans la Bible. Je continue. Cherchez et vous trouverez. Vous ne pouvez pas chercher Dieu si vous êtes criminel. Vous ne pouvez pas chercher Dieu lorsque vous continuez à pécher devant Dieu ou bien volontairement, non. Lorsque vous cherchez Dieu, vous vous débarrassez de vos péchés. Vous dites que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Je continue. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que le Christ répète la même chose d'une façon différente trois fois? Il dit d'abord demander, ensuite il dit chercher, maintenant il dit frapper. C'est la même demande d'une façon différente. Donc, si vous frappez à la porte, écoutez mes frères et mes sœurs, si vous frappez à la porte, vous ne tournez pas le dos et puis vous ne partez pas. Vous attendez jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Eh bien, là encore, souvent, certains d'entre nous frappent à la porte et n'attendent pas que la porte s'ouvre. Ils se tournent et s'en vont. Et c'est vrai. Pour autant que vous vous arrêtiez devant la porte, jusqu'à ce que la porte s'ouvre, vous avez toujours la certitude que la porte s'ouvrira et que Dieu vous répondra. Ce sont, voyez-vous, de simples vérités. Ce sont des vérités qui nous encouragent, et la plupart du temps, je répète, elles n'ont pas beaucoup de sens dans notre vie, car nous n'avons pas cette attitude de poursuivre jusqu'à la fin. À travers la Bible, regardez les prophètes. Ils ont souffert, ils ont été persécutés, mais ils ont tenu bon. Si vous êtes vraiment disciple du Christ, vous tiendrez bon. Et surtout à l'heure actuelle, en ce 21e siècle, nous avons tellement de raisons de douter. J'entends de raisons humaines. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont mal, il y a tellement de choses qui sont mauvaises en ce moment. Ces guerres, ces bruits de guerre, cette saleté, cette corruption, d'accord. Nous voyons tout ça. Mais ce sont des choses qui ne doivent pas nous détourner de Dieu, car Dieu nous a dit dans la Bible que cette situation va vraiment arriver au temps de la fin. Nous vivons au temps de la fin. Je sais quand, mais le Christ viendra bientôt, comme il a dit dans la Bible. Le Christ viendra avec force et va nettoyer ce monde de cette saleté, de cette rébellion, cet esprit de désobéissance. Et je répète, le retour du Christ est très proche. Mais entre-temps, continuez à vivre de façon à lui plaire. Et toujours à être sûr qu'il répondra à vos prières. Ensuite, toujours Matthieu 7, le Christ dit, après avoir dit que nous devons frapper et demander et chercher, il dit, verset 10, 11, il dit, regardez voir votre Père. C'est, dans ce monde, c'est pas. Il dit, si un enfant demande du pain à son père, je paraphrase, le père ne va pas lui donner du poisson. Si donc, dit-il, méchant comme vous êtes, dit-il, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et vous, je peux fermer la Bible ici, je dirais, bon, si cette promesse est valable, alors je tiens Dieu responsable de cette promesse. Et c'est juste. Seulement, vous tenez Dieu responsable de cette promesse, mais soyez sûr que vous remplissez les conditions vous-même. Autrement, ces promesses ne sont pas valables parce qu'il y a une alliance entre Dieu et vous. Et oui, c'est cette alliance. Dieu vous dit une chose, voilà les conditions. Vous les respectez, vous recevrez ce dont vous avez besoin, ce que vous demandez. J'ai souvent rencontré des gens qui ne sont pas sûrs de l'amour de Dieu. Autrement dit, ils ne savent pas vraiment si Dieu les aime vraiment. Écoutez, mes frères et mes sœurs, que vous soyez dans l'Église ou non, dites-vous à vous-même, une fois pour toutes, que Dieu vous aime, que Dieu veut que vous puissiez arriver au but pour lequel vous avez été créé. Ne doutez pas. Quelles que soient les circonstances, ne doutez pas. C'est le premier pas que vous devez faire. Vous verrez la différence. À travers les épreuves, à travers les soucis, à travers les tragédies, vous pouvez toujours dire avec force, Dieu m'aime. Dieu sait ce dont j'ai besoin. Vous verrez la différence. Vous verrez comment vous pouvez être dans ce cas-là, dans une meilleure attitude. Voilà pourquoi, je répète, lorsque vous vous trouvez en face d'une situation difficile, posez-vous la question. Dieu en est-il au courant? Dieu peut-il faire quelque chose? La réponse est affirmative dans les deux cas. Ensuite, posez-vous la question, si c'est le cas, pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien? Alors, dès ce moment-là, tournez-vous vers vous-même, car Dieu tient toujours ses promesses. Il est infaillible. La faute est de votre côté. Si vous doutez, c'est de votre côté. Si, par exemple, vous n'êtes pas sûr que Dieu vous répondra, donc la faiblesse, c'est de votre côté. C'est ça qui vous rend négatif. C'est ça qui vous fait douter de Dieu. Et c'est exactement ce que le Christ nous a dit de ne pas le faire et d'écouter. Tournez-vous vers Dieu et cherchez, vous le trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Dans Romains chapitre 8, l'une des plus belles promesses qu'on puisse voir dans la Bible concerne précisément la prière. Rencontrer souvent dans ma vie des gens qui disent, vous savez, moi, je veux bien croire en Dieu, mais je ne sais pas comment prier. Qu'est-ce que vous faites pour prier? C'est une question que j'entends souvent. Et c'est normal parce que, regardez voir la prière de ceux qui sont sincèrement chrétiens en ce bon monde, c'est une répétition de mots, de paroles. Ce n'est pas ça la prière. La prière n'est pas une répétition des mots que vous avez appris. Ce n'est pas une récitation de quelque chose que vous faites, non. La prière, ce sont des paroles, vos sentiments qui sortent de votre bouche, honnêtement, sincèrement, et vous vous exprimez à Dieu à votre façon, et non pas à la façon de quelqu'un d'autre. C'est beau de lire les psaumes. C'est beau de voir comment les apôtres, les prophètes ont prié. Mais ensuite, vous priez vous-même de votre façon. Vous direz, oui, mais moi, je ne sais pas prier. Je n'ai pas l'éloquence de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas la connaissance des apôtres ou des prophètes. Bon, est-ce que le Christ a cette connaissance? Est-ce que le Christ peut-il, lui, s'exprimer à Dieu et lui dire exactement ce que vous avez en tête? Vous direz, qu'entendez-vous par là? Eh bien, c'est exactement ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26. De même, dit-il, c'est Paul qui écrit sur l'inspiration d'une. L'Esprit, c'est-à-dire le Christ. Le Christ nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas, voyez-vous, ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Voyez-vous, même Paul le reconnaît. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas nous-mêmes comprendre comment vraiment prier, mais Dieu le sait, le Christ le sait. Le Christ lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur, dit-il, connaît nos pensées. Parce que, dit-il, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Comprenez-vous ce que je viens de lire? Le Christ intercède pour vous. Le Christ intercède pour moi. Lorsque vous faites une prière à Dieu le Père, vous vous demandez, est-ce que Dieu comprend ce que j'ai en tête? Est-ce que Dieu sait ce que je veux dire? Alors, supposons que la façon dont vous vous exprimez n'est pas juste, mais le Christ est votre avocat. Le Christ dit, voilà ce qu'il demande. Voilà, c'est son désir. À condition, je répète, que cette demande, ce désir soit conforme à la volonté divine. Donc, mes frères et mes sœurs, chaque fois que vous vous mettez à genoux devant Dieu pour prier, soyez absolument certains que Dieu vous entend. Ça, c'est une assurance fantastique. Dieu vous entend. Si ces prières ne sont pas exaucées, cherchez en vous-même où est la faiblesse et faites votre part. La plupart du temps, je répète, nous sommes tristes car nous nous comparons aux autres. La plupart du temps, je répète, nous nous plaignons car nous n'avons pas quelque chose que nous aurions peut-être souhaité avoir. Eh bien, tournez la situation. Au lieu de vous plaindre de ce que vous n'avez pas, remerciez Dieu de ce que vous avez. Ah oui, vous direz, mais il n'y a pas grand-chose, ça n'a pas d'importance. Remerciez Dieu de tout ce que vous avez, de ce que vous avez, cessez de vous plaindre. Là encore, se faisant avec cette attitude, vous pouvez voir comment vous pouvez avoir, vous, des bénédictions fantastiques. Il y a quelque temps, je me rappelle, dans un de mes sermons, j'étais en France, j'ai dit aux gens, écoutez, vous, peut-être qui doutez de Dieu, vous qui doutez de la façon dont le Christ répond à vos prières, chaque jour, prenez au moins pendant une semaine, ayez un petit papier sur vous, dans votre poche, un stylo, et comptez durant la journée les petits miracles qui vous arrivent. Je dis bien les petits miracles car les gens attendent de grands miracles. Les grands miracles arriveront, mais regardez voir combien de fois dans une journée Dieu fait des miracles dans votre vie. Vous serez surpris. Une rencontre avec une personne, ou bien une bénédiction inattendue, tout ce que vous voulez. Alors mettez sur un papier chaque jour les miracles qui vous arrivent. À la fin de la semaine, vous verrez combien de miracles vous sont arrivés et vous les avez pris en comme si c'était rien. Si vous avez pris cette habitude, vous pouvez voir que votre vie est pleine de miracles déjà, même si vous avez très peu de choses. Ce faisant, vous serez reconnaissant à Dieu. Moi, je sais, j'ai fait ça une fois, c'était incroyable. Parce qu'on oublie, on a cette tendance d'oublier, comme vous savez, mais n'oubliez pas les bénédictions de Dieu. Lorsque vous lisez les psaumes, c'est ça que vous voyez, comme Paul, par exemple, il apprécie les choses. Voyez, prenez un bout de papier, si vous voulez, mettez sur ce bout de papier pendant une semaine les miracles qui vous arrivent. Des petits miracles, des grands aussi, j'espère, mais je vous dis, vous serez surpris. Le manque de reconnaissance, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous dirigeons vers l'échec. Le manque de reconnaissance, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes déprimés. Nous voulons abandonner. Laissez-moi vous donner un exemple dans la Bible, dans Luc chapitre 17. Le Christ, en ce bon monde, a fait beaucoup de miracles. Le Christ a enseigné la voie divine. Le Christ a rencontré des gens qui l'ont voulu, qui l'ont persécuté. Et en même temps, le Christ a aussi rencontré des gens qui étaient pleins de reconnaissance et d'autres pas. Autrement dit, toutes sortes de gens. Regardez voir dans Luc chapitre 17, oui. Luc 17, verset 11. Voilà un exemple. Un exemple simple. Ici, vous avez un exemple simple, mais compliqué, dans le sens qu'il y a une guérison fantastique. Car lorsque vous faites une demande à Dieu, lorsque la demande est exaucée, lorsque vous êtes guéri, alors quelle est votre attitude? Notez-le. Jésus donc se rendant à Jérusalem, Luc 17, 11, entra dans la Samarie. Ensuite, comme il entrait dans la ville, dans ce village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Maître, aie pitié de nous. » Regardez voir cette image. Vous avez 10 lépreux. Vous savez, lépreux, ça vous fait un peu vous éloigner d'eux. Vous avez 10 lépreux qui arrivent vers le Christ. Et leur demande est normale. Dit, Christ, guéris-nous. Aie pitié de nous. Jésus, maître, aie pitié de nous. Ensuite, qu'est-ce qu'il arrive? Pendant qu'il leur dit, allez, le Christ a dit, verset 14, allez, dit-il, vous montrez au sacrificateur, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils étaient guéris, qu'ils furent guéris. Voilà un miracle, un grand miracle. Le Christ a entendu cette prière, pendant que ces gens-là allaient, ils étaient guéris. Bon, est-ce la fin de l'histoire? Hélas, non. Parce que la fin de l'histoire aurait été ce qu'un des aveugles a fait, notez-le. Il arriva donc, il arriva qu'ils furent donc guéris. Verset 15, l'un d'eux, seulement un des 10, se voyant guéri, revint sur ses pas. Intéressant. Se voyant guéri, donc, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Voilà l'attitude dont je vous parle. Être reconnaissant, remercier Dieu. 1 sur 10. Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, voyez-vous, l'attitude, au pied de Jésus et lui rendit grâce. Voilà l'attitude dont je vous parle. Voilà ce dont je vous parle. Cette reconnaissance à Dieu d'avoir été guéri, d'avoir eu la réponse à vos questions. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, pendant la parole, dit, « Et les 10 n'ont-ils pas été tous guéris? » Il y avait 10. « Et les 9, où sont-ils? » Un seul sur 10. Ne s'est-il pas trouvé, dit-il, que cet étranger, autrement dit, ce n'était même pas un Israélite. C'est un étranger, un gentil comme on l'appelle, qui a fait preuve de reconnaissance pour revenir et pour donner gloire à Dieu. Il y a une grande leçon pour nous. Regardez autour de vous. Aujourd'hui, les nations les plus bénies en ce bas monde, ce sont des nations qui sont les descendantes des tribus d'Israël. Vous connaissez ça, j'espère. Autrement dit, les Français, les Canadiens, les Belges, les Suisses, les Américains, les Anglais, sont tous des descendants des tribus d'Israël. Mais ce sont ces descendants aujourd'hui qui sont les plus bénis, si vous voulez. L'Amérique, l'Angleterre, la France et les autres pays. Et pourtant, dans ces pays, il y a le plus de manque de reconnaissance envers Dieu. Et oui, c'est vrai. Nous sommes bénis et pourtant, nous respectons, bien nous nous plaignons. Oui, nous avons des églises, certes, mais ce n'est pas une question d'avoir beaucoup d'églises, c'est d'avoir une attitude vraiment chrétienne. Je me rappelle les paroles de l'abbé Pierre qui vient de mourir, il a dit, nous avons besoin, pas autant d'églises, mais de logements. Intéressant. On a besoin de logements plutôt que d'église. Pourquoi? Parce que les logements vous donnent ce dont vous avez vraiment besoin. Les églises, la plupart du temps, c'est vide. Ou bien, ce n'est pas vraiment proche de Dieu. Soyons francs. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Autrement dit, soyons francs. Si vous êtes vraiment chrétien, si vous faites la volonté de Dieu, vous vous approchez de Dieu et vous exprimez à Dieu comme cet aveugle qui a dit, dans une attitude de prière, merci. Tandis que les 9 autres sont détournés de lui. Alors, aujourd'hui, c'est intéressant parce que les gens vivent dans une atmosphère différente. Le matérialisme aujourd'hui domine. Je rencontre beaucoup de gens, je parle à beaucoup de gens, et la première chose qui les intéresse, c'est la fortune, l'argent. On parle à la loterie parce qu'on veut gagner à la loterie pour avoir l'argent ou bien pour s'amuser, je ne sais pas quoi d'autre, mais l'argent, c'est quoi? L'argent n'est pas grand-chose. L'argent doit nous servir à nous tous pour pouvoir aider les autres davantage. Mais l'argent ne doit pas vraiment constituer notre but. Et pourtant, je répète, pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est l'argent qui compte. Regardez voir ce que le Christ encore, dans une parabole, s'exprime à cet égard. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Vous savez, j'ai vu un cas pareil. Autrement dit, je connais quelqu'un qui était très riche, qui avait beaucoup de choses. Il avait vraiment mis tout de côté et il pensait pouvoir vraiment un jour en jouir davantage. Avoir vraiment une vie idéale, entre guillemets. Vous savez ce qui s'est passé? Laissez-moi prendre la parabole du Christ. Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus répondit, « Homme, dit-il, qui m'a établi pour juge pour vous. » Puis il leur dit, verset 15, « Gardez-vous, dit-il, de toute avarice. Car, dit-il, la vie d'un homme ne dépend pas de ce que vous avez, de ses biens, fut-il même dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Ça, c'est intéressant comme le Christ répond. Il dit, « La terre d'un homme riche, verset 16, rapportait beaucoup. Il raisonnait en lui-même, il raisonnait disant, « Que ferais-je ? Il y a beaucoup d'argent, il est très riche. Car je n'ai pas de place pour serrer mes récoltes, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai les plus grands, j'amasserai toute ma récolte, tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Alors, mange, bois, réjouis-toi. » Verset 19, verset 20. Mais Dieu lui a dit, insensé. Ce mot dans la Bible est très intéressant parce qu'insensé signifie comme nous sommes stupides, parfois aux yeux de Dieu. Et insensé, dit-il, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Voilà. Vous avez ramassé une fortune. Dans le mer, vous n'y êtes pas, vous n'êtes plus. À qui? Pour qui sera cette fortune? Ce sont des choses que nous oublions, voyez-vous, lorsque nous pensons à Dieu et puis nous voyons ce qu'il fait pour nous. Voilà pourquoi je répète, nous n'avons pas assez de reconnaissance envers Dieu. Parce que nous n'avons pas le jugement juste. Le jugement juste, c'est que Dieu veut que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin en ce bas monde. C'est tout. Le plus n'est pas indispensable. Si on peut avoir plus, tant mieux. Mais avec le plus que vous avez, comme je viens de dire, vous pouvez avoir une attitude négative et vous perdez tout lorsque vous mourrez, alors que vous pensiez vivre un peu plus longtemps. Où en êtes-vous en tout cela, mes frères et mes sœurs? Où en êtes-vous dans cette attitude de reconnaissance envers Dieu? Dans Matthieu chapitre 6, là, je vous parlais justement il y a quelques instants de la prière. Les disciples du Christ se sont rendus auprès de lui parce qu'eux-mêmes, ils avaient les mêmes problèmes que nous, ils ne savaient pas comment prier. Ils ont dit au Christ, écoute Dieu, enseigne-nous à prier. Matthieu chapitre 6, verset 6. Donc les disciples demandent au Christ de leur enseigner comment prier. Et le Christ a dit, voici comment vous devez prier, verset 9. Okay? Là, vous, là encore, tâchez de comprendre. Il n'a pas dit répétez ces mêmes mots, non. Car répéter une prière n'est pas une prière, franchement parlant. Même un perroquet peut répéter une prière. Je m'excuse, mais c'est la vérité. Les prières doivent venir de votre cœur, de votre âme, de votre attitude. Les prières doivent être faites dans une attitude de humilité et exprimer à Dieu avant toute chose votre reconnaissance. Regardez voir la prière qu'il vous donne en tant que modèle. C'est bien ça, c'est un modèle. Il dit, lorsque vous priez, dit-il, notre Père qui est aux cieux. Autrement dit, vous reconnaissez la splendeur de Dieu. La première chose, c'est que ton nom soit sanctifié. Voyez-vous, ce n'est pas une question que donne-moi ceci. Vous dites que ton nom soit sanctifié. Répéter cette phrase ne veut absolument rien dire. Pour que le nom de Dieu soit sanctifié, il faut que je fasse ma part. Que moi-même, je sanctifie le nom de Dieu. Je le sanctifie si je fais ma part, si j'obéis à ses commandements, si je me montre en tant que chrétien, si j'aime mon prochain, si j'aide mon prochain, si je fais ma part. C'est comme ça que je peux sanctifier. Par mon attitude, je peux sanctifier. Je ne compte pas sur les autres. Ce ne sont pas les autres qui vont sanctifier. Si chacun de nous fait sa part, alors nous sanctifions Dieu. Que ton règne vienne. Là encore, voyez-vous, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que signifie que ton règne vienne. Le Christ est venu il y a quelques 2000 ans. Il a promis de revenir, il reviendra. Alors, après le retour du Christ, nous aurons un monde différent, un monde nouveau, le merveilleux monde à venir dont on parle, où Satan sera enchaîné, ne sera plus libre de séduire les gens. Dans le monde de demain, dans le monde à venir, nous aurons un gouvernement divin. Le Christ sera en charge de tous les gouvernements. Vous n'aurez pas ces milliers de religions comme vous avez aujourd'hui. Il y aura une seule religion, celle que la Bible nous enseigne. Alors, vous savez, là, ce sera un monde différent. Et le Christ dit que ton règne y vienne. C'est la demande la plus importante que nous puissions tous faire en ce bas monde. Vous savez, j'entends le matin les nouvelles, ça vous brise le cœur. Tellement de gens qui souffrent, même des gens, des soldats qui perdent leur vie dans des guerres tout à fait stupides, mettons. Mais lorsque nous disons que ton règne vienne, tout cela va s'arrêter. Tout cela va disparaître. Nous n'aurons pas des soldats qui vont se tuer et se donner leur vie, alors qu'ils ne savent même pas pourquoi ils donnent leur vie. Je lisais l'autre jour dans un journal, en disant que ces guerres que vous avez aujourd'hui, mettons hier en Irak, la plupart des soldats américains qui vont en Irak, ils ne savent même pas où c'est Irak, ou bien ils ne savaient pas, ou bien ils ne savent, savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils donnent leur vie. Lorsque vous dites à Dieu que ton règne vienne, vous mettrez fin à toutes ces stupidités en ce monde. Ensuite, le Christ dit, voyez-vous, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse, ta volonté, la volonté du Christ. C'est seulement maintenant que Dieu nous dit, donne-nous notre pain quotidien. Avez-vous jamais pris le temps d'examiner cette demande? Pourquoi le Christ n'a-t-il pas dit, donne-nous aujourd'hui tout ce dont nous avons besoin pour le restant de notre vie? C'est la tendance humaine. Nous voudrions que Dieu nous donne quelque chose pour le restant de notre vie. Et non, ce n'est pas ça. Si vous demandez notre pain quotidien, c'est que vous faites preuve de foi en Dieu. Aujourd'hui, vous demandez votre pain quotidien. Demain, vous demandez votre pain quotidien. Le lendemain, vous demandez votre pain quotidien. Ce faisant, chaque jour, vous faites preuve de foi. Et c'est vrai. À quoi bon de recevoir tout ce dont vous avez besoin tout d'un coup? D'abord, vous n'apprécierez pas. Ensuite, vous ne faites pas de preuve. Donc, lorsque vous priez, ayez ça en tête. Demandez votre pain quotidien. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, et non pas le lendemain. Là encore, vous verrez la différence. Ensuite, gardez la demande, votre pain quotidien. Ensuite, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est intéressant, cette prière. J'ai fait plusieurs sermons sur cette prière. Mais, voyez-vous, lorsque vous étudiez profondément cette prière du Christ, vous verrez que dans cette prière même, vous apprenez le plan divin, notre attitude à l'égard de ce plan, notre avenir et comment être chrétien. Et le Christ nous dit que nous devons pardonner aux autres si nous voulons que le Christ ou bien Dieu nous pardonne lui-même. C'est intéressant, n'est-ce pas? Verset 14. « Si vous pardonnez, dit-il, aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Voilà, une autre condition, une autre alliance. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Bon, ça c'est fort, hein? Voilà pourquoi la plupart du temps, je dirais, que vos prières ne sont pas exaucées. Parce que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un. Je connais des gens qui m'ont dit, écoutez, oh, j'ai pardonné, mais je ne vais pas oublier ce qu'il a fait. Mais ça, ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas pardonner si vous n'avez pas oublié. Comment est-ce que Dieu peut nous pardonner s'il n'oublie pas nos péchés? Et pourtant, le jour viendra où il va oublier nos péchés. Alors, ayez cette attitude, voyez-vous. Ayez cette attitude comme quoi, si vous voulez que Dieu vous écoute, vous exauce, regardez autour de vous, si vous avez fait quelque chose de mal ou de mauvais envers quelqu'un, d'abord repentez-vous. Et si quelqu'un a fait du mal envers vous, pardonnez-lui. Là encore, c'est une prière, c'est ainsi que vous pouvez vous approcher de Dieu. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Le christianisme, mes frères et mes sœurs, n'est pas une religion compliquée. Le christianisme n'est pas difficile à mettre en pratique. Le christianisme devient difficile lorsque nous imposons à Dieu nos propres conditions. Autrement dit, nous prenons les versets bibliques, les instructions bibliques, et nous les appliquons à notre façon. Nous voulons que Dieu nous réponde à notre façon. Que Dieu nous exauce à notre façon. Ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme est fondé sur la gratitude, la reconnaissance. Le christianisme est fondé sur notre amour envers notre prochain. Le christianisme est fondé sur notre attitude envers notre prochain. Vouloir son bien et non pas le nôtre avant tout. Ça, c'est le christianisme. Jacques chapitre 4, disais-je. Verset 13. Là encore, l'exemple que je vous donnais, à vous dit-il à maintenant qui dites, aujourd'hui, demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Autrement dit, vous faites des projets, c'est bon. Il n'y a pas de mal à faire des projets. Seulement que ces projets soient fondés sur des promesses divines. Dites-vous, verset 14, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que la vie d'un homme, ou votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Intéressant. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes une vapeur. Nous sommes une poussière. Nous ne sommes rien. Dieu est tout. Dieu peut tout faire. Alors vous direz, il faut abandonner? Pas du tout. Au contraire, vous direz, écoute, à vous-même, je sais que Dieu m'aime. Je sais que tout se passe conformément à la volonté de Dieu. Comme le Christ a dit, vous devriez, verset 15, vous devriez dire, Au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voilà. C'est juste, c'est simple et c'est beau. Je me rappelle le premier sermon que j'ai fait en France en 1960, sur RTL. À l'époque, nous avions des émissions sur RTL, plusieurs émissions par semaine. Et l'un des premiers sermons que j'ai fait était sur 1 Timothée chapitre 3. Laissez-moi vous le citer. 1 Timothée chapitre 3. Ce qui est intéressant, voyez-vous ici, ça c'était mon premier sermon, un des premiers sermons, c'était en 1960. Ça fait quoi? Ça fait 45 ans. Donc, il y a 45 ans, je parlais de cela, et ce que je disais à cette époque-là, c'est toujours valable aujourd'hui. Autrement dit, je prends 2 Timothée. Voilà. Voyez-vous, ce que je disais donc il y a 45 ans, je ne savais pas vraiment comment parler de l'avenir, donc je montrais aux hommes, lors de ce sermon-là, ce qu'il fallait faire et le monde où nous vivions. Et j'ai pris justement 2 Timothée chapitre 3 et j'ai cité dans ce sermon-là ce que l'apôtre Paul écrit. Laissez-moi vous le citer, 2 Timothée chapitre 3. « Sache que était dans les derniers jours, il y a 45 ans. Aujourd'hui, nous sommes 45 ans plus proches des derniers jours, ou 47 ans. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Voyez-vous, il y a presque 50 ans, je parlais des temps difficiles en citant la Bible. Et aujourd'hui, c'est encore pire, parce que les temps sont encore plus difficiles. Car, dit-il, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, déloyaux, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Vous savez, on peut prendre chaque exemple et élaborer. Rebelles à leurs parents, ingrats, menteurs. Ensuite, traîtres, emportés, dit-il, par l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et dit-il, ayant l'apparence de la piété, et pourtant reniant ce qui est en fait la force. Regardez autour de vous. Est-ce que vous pouvez vous trouver dans un tel monde aujourd'hui? Oui, certes, nous avons beaucoup d'églises, comme j'ai dit. Mais est-ce que nous avons cette attitude-là? L'attitude de méchanceté, de travailler avec l'adversaire, pour ainsi dire. Eh bien, vous savez quoi? Aujourd'hui, après 47 ans de ce sermon, ces émissions ont duré pendant longtemps sur RTL. Aujourd'hui, je peux dire la même chose. Je peux prendre le même chapitre de Timothée 3, répéter exactement les mêmes paroles, car les choses n'ont pas changé. En fait, les choses ont empiré. Aujourd'hui, nous avons plus ce genre d'ingratitude, ce genre d'un comportement humain qu'il y a 50 ans. Alors, pourquoi? Et pourtant, nous avons beaucoup d'églises. Je me rappelle des missionnaires qui étaient allés en Afrique pour sincèrement convertir les Africains. Un jour, j'ai reçu une petite lettre qui citait les paroles d'un Africain. Il dit, si c'est ça votre religion, gardez-la chez vous, ne venez pas vers nous. Nous ne voulons pas cette religion. Si vous êtes missionnaire, venez nous aider et non pas tâcher de nous convertir. Convertir à quoi? Si même vous ne savez pas ce que c'est que la Bible, comment pouvez-vous l'expliquer à quelqu'un d'autre? Comment pouvez-vous expliquer à quelqu'un d'autre ce que c'est que le but de la vie? Ce que sont les commandements? Un missionnaire doit vraiment expliquer ce que c'est que la vie. Aider les gens à s'approcher de Dieu. Et non pas à s'approcher à leur façon, à eux, des missionnaires, pour interpréter la Bible. Enfin, ça, c'est l'idée m'est venue. Mais voyez-vous, c'est ça, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous tâchons de proclamer l'Évangile alors que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est le retour du Christ dans ce monde. L'Évangile, c'est le bon message de l'établissement du royaume sur cette terre. L'Évangile, c'est le sacrifice du Christ qui est mort pour nous afin que nous puissions avoir accès au salut. L'Évangile, c'est notre foi en Christ, en ses promesses. Tout ça, c'est l'Évangile. Voyez-vous, il n'y a que Dieu, et lui seul, peut changer ce monde. Et il changera d'ici très peu de temps. Alors, résumons, parce qu'il faut maintenant que j'arrive à conclure ce sermon. Nous sommes aujourd'hui à une époque qui est pire qu'il y a 50 ans, comme je disais, et nous avançons vers une époque où la situation va empirer. Le Christ viendra. Si le Christ ne revenait pas, il n'y aurait pas une seule âme vivante sur cette terre. C'est ce que le Christ a dit dans Matthieu chapitre 24. Lisez-le. Le Christ dans cette prophétie a dit, si le Christ ne revenait pas, il n'y aurait pas une âme qui serait vivante sur cette terre. Voilà pourquoi le retour du Christ est proche et même indispensable. Beaucoup de gens aujourd'hui buvent, boivent et mangent et ne se rendent pas compte que nous vivons au temps de la fin et nous sommes très proches. Voilà ce que j'entends par enthousiasme et par faire confiance à Dieu et en même temps paraître reconnaissant. Appréciez ce que vous avez aujourd'hui car demain vous ne l'aurez pas. Demain, vous perdrez tout ce que vous avez aujourd'hui, vous verrez. La Bible parle même que les gens vont jeter par la fenêtre leur argent. Eh oui, à quoi bon un argent qui ne vaut rien? Voyez-vous, si vous comprenez cette vérité, vous appréciez Dieu. Et vous savez que Dieu entend ce qu'il dit. Mes frères et mes sœurs, en toutes choses, soyez absolument certains que Dieu a pour vous et pour moi des promesses fantastiques pour l'avenir. Et les promesses divines sont réelles. Donc, tâchez d'apprendre à dire merci. Merci à Dieu. Mais avant que vous puissiez apprendre à dire merci à Dieu, tâchez d'apprendre à dire merci à votre prochain. Parce que la plupart du temps, évidemment, nous disons merci, mais sans y penser. J'entends exprimer vos sentiments de reconnaissance. Vous verrez la différence. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Une fois encore, c'est l'apôtre qui nous dit comment exprimer nos reconnaissances envers Dieu. 1 Timothée chapitre 2. Regardons comment l'apôtre Paul exprime nos sentiments envers Dieu. Il dit verset 1, « J'exhorte, dit-il donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce et remerciements, pour tous les hommes. » Tiens, pour tous les hommes. Autrement dit, pas seulement pour vos proches, pour ceux qui sont de votre nationalité, mais pour tous les hommes. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Le « nous », c'est les chrétiens, les vrais chrétiens. Le « nous », ce sont eux qui ont une mission à accomplir, c'est de proclamer l'Évangile. Donc, pour que nous puissions avoir une vie tranquille, nous devons prier pour ses chefs, afin que nous puissions accomplir notre tâche. En toute piété, dit-il, en toute honnêteté. Ensuite, verset 3, notre Sauveur, qui veut que tous tous les hommes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est l'Évangile. Dieu veut que toute la nation, un jour, parvienne à comprendre ce que vous comprenez maintenant, ce que je vous explique maintenant, ce que la Bible nous dit. Alors, vous avez une part à jouer dans cette promesse. Une part à jouer, directement, indirectement, je sais, mais en étant vous-même chrétien, en faisant vous-même le bien autour de vous, en proclamant vous-même, par votre accroitude, la bonté de Dieu. Notez dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Ce chapitre est très intéressant car dans ce chapitre, l'apôtre Paul nous montre ce que c'est que la vie à venir et comment nous-mêmes devons donc nous approcher de Dieu, comment vraiment faire sa volonté et ce que c'est que le but de la vie. Éphésiens 3 parle non pas seulement de ce monde-ci, mais du monde à venir. Il dit, si donc, dit-il, chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscité en Christ, autrement dit, lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu, vous êtes engendré de Dieu, vous êtes symboliquement ressuscité en Christ, cherchez les choses, dit-il, dans tout où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, dit-il, aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur cette terre. Voilà une vérité absolue. Vous serez heureux, vous serez joyeux, vous aurez tout ce dont vous avez besoin si vous apprenez à vous affectionner aux choses d'en haut, premièrement, et non pas celles qui sont sur cette terre. Car vous êtes, dit-il, mort, et votre vie est cachée avec le Christ. Quand, dit-il, le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il est question de la résurrection des morts. Il est question du retour de Christ. Voilà la beauté dans toutes ces choses. Et pour terminer, je voulais mettre l'accent sur l'humilité. Mais je vous laisse ça à chercher vous-même. La Bible est pleine de promesses pour ceux qui sont humbles. Soyez humbles, car vous ne pouvez pas vraiment remercier Dieu si vous n'êtes pas humble. Vous ne pouvez pas vraiment être chrétien si vous n'êtes pas humble. L'humilité, c'est la base même de la conversion. Qui sommes-nous pour que le Christ meure ou mourût pour nous? Nous ne sommes rien, nous sommes une vapeur. Alors, dans vos prières, soyez sûr que vous êtes toujours plein de reconnaissance à Dieu. Je vais pas parler, prenez le temps d'étudier l'épître de Paul aux Philippiens. Ça vaut la peine. Parce que dans l'épître de Paul aux Philippiens, vous verrez toutes les promesses qui nous sont faites si nous sommes humbles devant Dieu. Rappelez-vous Proverbe 15, 33. L'humilité précède la gloire. La gloire, c'est lorsque nous serons dans le royaume de Dieu. Mais pour y arriver, nous devons d'abord être humbles. Alors, où en sommes-nous? C'est très simple. Appréciez la vie. Appréciez Dieu. Appréciez la Bible. Appréciez les promesses que Dieu vous fait dans la Bible. Appréciez surtout le sacrifice du Christ. Et laissez-moi vous donner encore un dernier verset avant de conclure. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 28, Paul dit, « C'est pourquoi, dit-il, recevant un royaume inaltérable, inébranlable, je m'excuse, c'est le monde à venir, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Autrement dit, Dieu punira ceux qui ne veulent pas se repentir. Mais un feu dévorant ne signifie pas un Dieu qui n'a pas de pitié, au contraire. Dieu vous pardonnera toujours si vous vous repentez de vos péchés avec l'intention de ne pas les répéter. Mes frères et mes sœurs, soyez-en reconnaissant. Apprenez à dire à Dieu merci, merci de tout notre cœur.